Françoise Trossard et la belle équipe avec vous jusqu'à 13h58. C'est la récré littéraire. À l'affiche, joli dimanche et coup de gueule contre les gens toujours à l'heure par Violaine Schwartz et Serge Joncourt.
Est-ce que vous avez déjà écouté la radio?
Un petit peu, oui.
Oui. Bon, ben la radio, c'est terrorisant à quel point ils sont à l'heure. C'est à croire qu'ils sont tous là à guetter les secondes sur la montre géante là, qu'ils ont au plafond. Pour voir arriver 6h58, 6h59, et pof, à 7h pile, jingle. Ça me stresse.
Et puis une fable érotique. Un échange entre trois drôles d'épistoliers suivi par le LSD sur un tableau de Picasso, le joli dimanche d'Hercule Poirot, et des mots nouveaux pour le dire comme la topipédie, Odile Conseil.
C'est l'engouement dominical qui pousse les masses laborieuses à tenter de se maintenir en forme en pratiquant le footing.
Un numéro des Papous dans la tête à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, rubrique podcast pour votre bibliothèque sonore. Merci de votre fidélité à nos jeux Papous et pour les nouveaux, bienvenue dans le club. Et pour fêter ce jour qui nous réunit, un nouveau joli dimanche, scénette pastiche entre le maître et l'élève. Proposé par Jacques Jouet, racontez-nous Jacques.
Le joli dimanche de Socrate.
Oui.
J'ai besoin d'une voix de jeune homme.
Ah bon, vous avez Patrice Minet là à côté de vous.
C'est
vous
vrai,
voulez bien Patrice?
Ah oui, bien sûr, une voix de jeune homme. C'est une de mes spécialités.
Alors c'est lui qui commence.
Oui.
Par Zeus, Socrate, c'est pas pour me vanter, mais il fait rudement chaud sur l'Acropole.
Oui, heureusement que c'est dimanche, le joli dimanche.
Pourquoi dis-tu cela, Socrate?
C'est toi qui me poses la question? Ah non, les questions, c'est moi qui les pose.
Il est vrai, Socrate.
Alors, à ton avis, pourquoi t'ai-je dit plus haut? Désolé de me citer moi-même, mais c'est ainsi qu'on est le mieux servi. Pourquoi t'ai-je dit plus haut, heureusement que c'est dimanche, le joli dimanche?
Oh, je n'en ai pas la moindre idée, Socrate. Les idées, normalement, c'est toi qui les as.
C'est juste. Parle-moi un peu des gestes du dimanche, des déplacements du dimanche.
Ils ne sont pas différents des gestes et des déplacements des autres jours, Socrate. Enfin, il me semble.
En vérité, est-ce que tu ne marches pas un peu plus lentement le dimanche que les jours ouvrables?
Non, car je fais du jogging, Socrate, le dimanche.
Ah, donc tu me dis que tu fais du jogging 24 heures durant.
Par le chien, Socrate, je n'ai pas dit cela.
Pourquoi n'as-tu pas dit cela?
Allez,
accouche.
Parce que c'est impossible, Socrate.
Impossible n'est pas atteignable, pourquoi n'essaierais-tu pas?
Parce que ça paraît difficile, Socrate.
Difficile les jours ouvrables, mais le dimanche, le joli dimanche, est-ce que ça n'est pas le jour du repos?
Sans conteste, c'est le jour du repos, Socrate.
Par conséquent, si c'est le jour du repos, tu es reposé, ça doit être moins fatigant de courir le dimanche, jour où tu es reposé, que par exemple le jeudi, tu ne penses pas? Et par-dessus le marché, plus tu cours lentement davantage, moins tu te fatigues plus, ce qui fait que tu souffres moins de la chaleur. C'est pourquoi tout à l'heure je te disais, heureusement que c'est dimanche, le joli dimanche, tandis que justement tu te plaignais de la dite chaleur.
C'est un raisonnement qui se tient, Socrate.
On avance. Alors, puisqu'on est dimanche, le joli dimanche, eh ben vas-y, va, cours, vole.
Je ne peux pas, Socrate.
Pourquoi?
À cause du plâtre, Socrate.
Quel plâtre?
Celui qui entoure ma jambe, Socrate. La jambe que je me suis cassée en tombant lors de mon dernier jogging du dernier joli dimanche.
Quoi, tu ne pouvais pas me le dire plus tôt?
Ah, mais on peut pas en placer une avec toi, Socrate.
Oh, tu parles d'un joli dimanche, encore une foutue.
Oh, il était plein de son rôle, hein, Patrice Mollet.
Ah oui, les jeunes hommes, j'en fais de moins en moins, je peux vous dire.
Ah, bah, c'est formidable.
C'est bien encore.
Oui. Les écrivains papous sont des gens charmants, vous le savez. Même s'ils râlent parfois contre les pantalons de taille basse ou les fins connaisseurs, contre les journées d'eux ou la présence des bébés dans les trains. Ça, c'est un motif de pamphlet pour Serge Joncourt. Il faut dire qu'il adore voyager, Serge, et uniquement en train. Mais Serge Joncourt, il a un bon fond. Et s'il tempête souvent, il peut aussi défendre, par exemple, le mug innocent, vivement attaqué un jour par Jacques Jouet. Seulement aujourd'hui, il retrouve son rôle d'attaquant à son tour. Vous êtes contre quoi, Serge Joncourt ?
Je suis contre les gens qui sont à l'heure.
Ah bon ?
Oui, oui.
Vous êtes contre moi, alors ? Moi, je suis toujours à l'heure. Vous aussi, Dominique, oui.
C'est le moment de le dire. Hein.
Pourquoi ça vous énerve ?
Il n'y a rien de plus énervant que les gens à l'heure. Ça me stresse. Tenez, par exemple, quand je donne rendez-vous à quelqu'un, disons, à 18h,
oui,
dans un café, et ben, même si ce n'est pas toujours à côté de chez moi, le café, je vais tranquillement à mon rendez-vous, à mon rythme. Seulement, évidemment, comme je n'ai jamais de chance, il faut toujours que ça roule bien. Du coup, je suis souvent arrivé à moins 10. Et là, peinard, je savoure, je pioche dans le ranquin à olives. Vous savez, les trucs...
Avec des carottes aussi.
C'est-à-dire que vous buvez de l'alcool.
On offre maintenant...
Ils vous apportent tout de suite
pour vous donner soif. Voilà. Enfin, rien n'empêche de boire. Ouais. Je suis là, tranquille, donc le garçon vient prendre ma commande. J'ai l'alibi pour être peinard. Parce que je lui dis, j'attends quelqu'un. Du coup, j'ai même pas à m'encombrer de la question de savoir ce que je vais prendre. Je regarde la rue, je savoure, tranquille. Et puis là, paf, à 18h tapante, il faut que mon rendez-vous arrive. À 18h pile, hein. Les gens n'ont aucun savoir-vivre. Donc à partir de là, alors évidemment, les ennuis commencent. Et toi, qu'est-ce que tu vas prendre? Et toi, qu'est-ce que tu prends? Oh non, qu'est-ce que tu prends? Oh non, qu'est-ce que tu prends? Du vin? Oh non, pas de la bière. Oh, pas à cette heure-ci, de l'alcool. Ça plombe l'ambiance. Mais bon, le pire, ce qui m'énerve le plus, à titre de genre à l'heure, c'est les dentistes. Enfin, le mien en tout cas.
Oui.
Bah oui, parce que la salle d'attente du dentiste,
oui,
on se le dise, c'est le bonheur. Piocher des inédits dans un télé 7 jours d'il y a 6 ans, la grâce de retomber sur des photos d'Albert de Monaco bébé, dans les bras du prince régnant, ou régné, j'ai jamais su. Enfin. Mais bon, pour ce qui est de mon cas, même pas le temps de lire, mon dentiste me reçoit toujours à l'heure, pile. Je sais pas comment il fait, à croire qu'il sous-traite. Ou qui vire le précédent en plein plombage. Il faut dire aussi que le dentiste, on n'y pense pas assez, ça. Mais un dentiste, ça passe sa vie le nez au-dessus de son poignet.
Un dentiste,
ça vit le nez dans la montre. Il y a longtemps que vous êtes allé chez le...
Non.
Ça fait image, normalement. Hein. La prochaine fois, vous regarderez.
Ouais.
Bon, moi, ce que je fais pour avoir droit à ma pause, celle d'attente peinard, j'y vais avec une demi-heure d'avance.
Et oui, vous avez le temps de lire les jours de France.
Histoire de profiter de la salle d'attente tranquille. Et alors là, pour le coup, là, ça, aller chez le dentiste, on redevient un vrai bonheur. Hein. Mais bon, là, j'ai à peine le temps de rêver perdu dans des décolletés des Bahamas.
C'est point de vue, image du monde.
Oui, ou un vieux jour de France. Que là, à moins 20, le dentiste ouvre la porte en me disant « Ah, tiens, monsieur Joncourt, bon, bah, comme madame Chaour, c'est pas encore arrivé. »
Elle est venue, oui.
Vite fait, je vais vous prendre entre deux. Oh là 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 là, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est l'enfer. Non, c'est le dentiste, bah encore le dentiste, mais le théâtre.
Oui.
Oh, le théâtre. Tenez, l'autre fois, j'étais à 19h, chez Berthaud, premier balcon.
Oui.
Et là encore, il faut bien le dire, j'étais avec une demi-heure d'avance, parce que le plaisir au théâtre, c'est de regarder la salle se remplir.
Ouais.
De voir qui est assis à côté de qui, de suivre des yeux la jolie silhouette de l'ouvreuse, de détailler la qualité des plafonds. C'est un pur bonheur, vraiment. Et comme en plus... En ce qui me concerne, j'ai un opérateur qui capte très bien chez les Berthaud. J'ai même le temps de surfer sur Internet. Bien calé, dans un fauteuil au rouge aimant. Non, c'est le bonheur. Seulement voilà, prof, à 19h pétante, voilà qu'on passe une annonce. Veuillez éteindre vos portables. Oh, vraiment, c'est la goujaterie. Bon, après, il y a 19h01, la lumière s'éteint, le rideau s'ouvre. C'est dingue. C'est dingue au théâtre, cette manie qu'ont les comédiens d'être à l'heure. Non, il paraît même que certains, parfois, arrivent avec 3 heures d'avance, avant la représentation. Mais bon, si je prends l'exemple des Berthaud, c'est parce que, comme je vous le disais, j'y étais avant-hier. Mais au cinéma, c'est pire. Chez UGC, ils sont pile à l'heure au moins 6 fois par jour. C'est décourageant, j'y vais plus. Et à la radio. Mon Dieu, est-ce que vous avez déjà écouté la radio?
Un petit peu, oui.
Oui. Bon, ben la radio, c'est terrorisant à quel point ils sont à l'heure. Pour le flash d'infos, c'est à croire qu'ils sont tous là, à guetter les secondes sur la montre géante là qu'ils ont au plafond, pour voir arriver 6h58, 6h59, et pof, à 7h pile, jingle. Ça me stresse. Tous ces gens à l'heure, ça m'oppresse, ça m'angoisse. Voilà, le mot est lâché. Ça m'angoisse. C'est pourquoi, dans le cadre de la vie privée et professionnelle, au moins 3 fois par semaine... je dis bien 3 fois par semaine, des gens ici peuvent en témoigner,
oui.
Je prends le train.
Ah oui, mais ça on train. Sait, vous êtes toujours dans le train.
Là, je respire. Mais... Là, je respire, parce que si au départ, les trains en gros sont toujours à peu près à l'heure.
Pas toujours, mais presque.
À peu près. Ouais. Par contre, pour ce qui est de l'horaire d'arrivée, enfin celle qui est marquée sur le billet, oulala, là, y a de la marge.
Ouais.
Oh, quel bonheur. Moi, dans le train, j'exulte. Parce que entre la grève surprise des contrôleurs et l'affaissement des remblais suite aux inondations, entre les congères givrées de Brive et les vaches errantes de la souterraine, entre les suicides matinaux et les ruptures de caténaires, ça au moins dans le train, on peut dire que on prend le temps, on a du temps, on respire, on se détend. Et même s'ils sont tous là autour de moi à regarder la montre, mais moi je savoure, je la tiens ma revanche. Oui. Je vais vous dire, non, n'ayez pas.
J'ai un petit peu peur que vous me tapiez dessus.
Oui,
est-ce que vous rapprochez votre point
mais
de moi?
Mais vous êtes trop près, qu'est-ce que vous voulez? Bon, non. Dans ce monde obsédé par la ponctualité maladive, heureusement qu'il y a le train. Parce que ces milliers d'heures passées, bloquées dans un souciage de secondes à se demander à quelle heure on va arriver, cette incertitude vitale, ça procède, c'est de la poésie du dérèglement. C'est le bonheur, quoi. Donc là-dessus, il faut que j'aille parce que j'ai un train qui part à 37.
Il est un peu compliqué, mais on n'en a qu'un au Papou. Enfin, bon, mais vous le connaissez, Violaine Schwartz. Vous êtes dans son genre, un peu compliqué avec le temps. En fait, c'est le temps qui passe qui m'inquiète.
Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, en fait.
Ah, vous non. aimez le.
Moi, au contraire, je trouve que la poésie du dérèglement, la liberté de penser, ne peut s'inscrire que dans un cadre précis, avec des règles claires, comme les règles de grammaire. Le pire, c'est quand on vous dit « écris ce que tu veux, fais nourrir », rien n'est plus difficile, on n'y arrive pas, on flotte, on ne sait pas quoi dire. Alors que les contraintes, justement, elles ouvrent des brèches inattendues, des échappées, à l'image des exercices qu'on fait ici. Et donc, l'exactitude très précise de la petite et de la grande aiguille, pour moi en tout cas, ça c'est mon côté alsacien,
Hop là,
ça me libère l'esprit.
C'est
alsacien.
Oui.
Ça me libère l'esprit. Non, parce que je peux en effet choisir d'arriver en avance. Je suis maître de mon temps. Les règles sont bien partagées. Je fais ce que je veux quand je veux, dans le tic-tac de la pendule. Par contre, attendre quelqu'un, ça me transporte immédiatement dans une chanson de Jacques Brel. Ce soir, j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Attendre quelqu'un, ça me fait rétrécir à vue d'œil. Et tout à coup, j'ai 5 ans devant la grille de l'école. Ça me transporte au fin fond du désert, ça me réduit à zéro.
Oui.
Attendre quelqu'un, ça me projette dans un scénario catastrophe, j'imagine immédiatement le pire. Je me mets à entendre des sirènes de pompiers partout, et j'attrape un torticolis à force de surveiller ma montre. Et quand la personne finit par arriver avec l'excuse foireuse de la panne du métro, je suis hors de moi et rien d'y penser. J'en perds mes mots.
Non, c'est terrible.
Et voilà, j'arrive plus à rien faire.
Oh, c'est pas le même genre que vous, mais elle est très angoissée, elle aussi.
Ah, c'est eux, les angoissés.
Mais moi, je comprends ça.
Non, mais on attend
les gens, se disent, ils sont morts.
J'imagine toujours des accidents terribles ou des ruptures, enfin, toujours des choses catastrophiques.
Oui, oui.
Ah non, mais vous êtes un peu alsacienne, c'est ça, oui. c'est désespérant, l'Alsace. Même les TGV sont à l'arrivée. C'est une tristesse.
Flux par Coldplay.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
Eh oui, c'est vrai Jean-Bernard Pouy. Et c'est l'heure de jouer sur France Culture avec les papous dans la tête au nouveau fabuliste. Eva Almassi, je vous ai donné deux mots en pensant, tiens, ce serait bien que pour une fois et en dehors de la journée du festival Mauvais Genre, les papous soient un petit peu érotiques. Alors je vous ai donné la Galipette, qui est un personnage qui peut faire penser à l'érotisme, pas forcément, mais peu. Et puis le trop-plein. Le trop plein parce que trop plein d'amour, trop plein de joie, trop plein. Non, ne pensez pas.
Trop réaliste.
Comme dit la moralité, trop plein d'érotisme éloigne de
nuit à l'érotisme. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé dans le sens de la consigne ou pas.
Je crois bien. Oui.
Oui. Oh, on va se régaler. Jacques Jouet, vous n'étiez pas au courant de ma demande. Je vous ai juste proposé d'improviser sur le sujet. Non, exact. Je ne vous en ai pas fait part. Mais ces deux personnages, la Galipette et le trop-plein, vous ont fait penser à ça ou pas du tout?
Oui, mais je me suis dit, sachant qu'Eva devait traiter la fable avec beaucoup de temps, de documentation, donc j'ai préféré choisir un autre terrain.
Oui, qui est?
Qui est le cirque. Donc j'ai rajouté un personnage qui est un clown.
Oui.
Le clown, la Galipette et le trop-plein. Un clown, après qu'il eut bu plusieurs litres d'eau minérale, se retrouva sous son cul. Après un soleil. Mais scandale, il se transforma en fontaine, en crachant comme une baleine, et par tous les trous le trop-plein d'eau qu'il avait en son sein. Comme il était sur une cuvette en porcelaine de Picardie, celle-ci se retrouva en miettes, assez piteusement, sous lui. Alors après, il faudrait continuer à raconter, mais il y a une moralité.
C'est dommage, oui.
Moralité. Souviens-toi du vase de nuit de Soissons, quand tu boiras la mer avec ses poissons.
La moralité est très jolie. Bon, on vous donne 8 jours pour écrire le reste.
Oh non, 8 jours,
c'est trop.
C'est large.
C'est un trop plein. Alors, Eva Almassi, ben, on vous attend sur cette fable érotique.
Il y a aussi beaucoup d'eau chez moi.
Hein. Ah, ouais. Oui.
Bah oui.
Le trop-plein et la Galipette. Un trop-plein n'en peut plus de ne pas déborder, de ne pas s'épancher, de ne pas se répandre. Et songea même à se pendre plutôt qu'encore tenir et se retenir au lieu de jouir et se réjouir. Il fallait, et ce fut une urgence, se saisir de la dernière chance et faire sauter fulminant de rage ses ultimes barrages et ses digues, sinon il devenait dingue. Afin de publier sa quête, le trop-plein chantait à tue-tête « je vais et je viens ». Hélas, il ne vit venir que rien. Non loin de là, pourtant, une galipette venait d'emmêler ses jolies gambettes. Roula d'arrière ou roula d'avant, que nenni, elle était elle-même à court d'amant. Faute d'arguments plus palpables, elle trempa ses courbes aimables dans un bon bain bouillonnant qui n'en ferait pas autant. Elle ajouta des sels de lavande, de l'eau de rose et un peu d'ambre pour calmer ses pauvres membres qui auraient préféré du gingembre. Vous connaissez les vertus du gingembre.
Aphrodisiaque du gingembre.
Et elle chanta d'une voix douce « tu vas et tu ». Sous la douche. Oh, 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 gargouilla l'ogre, en l'espèce le trop-plein érotologue, l'occasion rêvée de faire de la baignoire, un lit de noces, un champ de bataille, un roulé-boulé mémorable. Sur ce, de la galipette, il mord l'érable, perdant toute contenance et précipitant sa perte séance tenante. Prompte à répondre au trop-plein géant, assuré d'en attendre autre chose que du néant, la souple galipette se dressa sur son séant, retirant la bonde et vit dans l'océan. Quel accident fâcheux, tâtant son partenaire, la belle faillit nous faire une énorme crise de nerfs. Elle ne comprit goutte, cette pauvre galipette, trop pleine naguère, il ne valut plus tripette. Qu'elle aille faire ailleurs ses culbutes qu'une salle de bain, qu'elle mise sur une meilleure monture son béguin et ses gants. Moralité, en amour, évitez le trop pressé, le fanfaron, car souvent l'imbu de lui-même ne vaudra pas un rond.
À méditer. Qu'est-ce que vous pensez de la moralité, Jacques Jouet ?
La moralité est très bien, mais, mais je donnerais un conseil à Eva. Dans la baignoire, comme ça, mettez un bouquet garni. Vous verrez, ça rajoute vraiment quelque chose, surtout quand on boit la tasse.
Et il tiendra plus longtemps, le trop-plein ?
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, nettement. Normalement.
Oui, un commentaire, Odile ?
C'était presque histoire d'eau. J'ai adoré.
Par l'ensemble vocal Garnier, c'est inattendu, un petit peu comme Eva. Gérard Mordillat, Jacques Bertrand, Lucas Fournier, dans la peau de trois personnages de fiction, et pourtant, ils sont bien dans la leur. Cinéaste et romancier, pour Gérard Mordillat. Essayiste, multicasquette et homme de l'Amalou, pour Lucas Fournier. Écrivain, journaliste un temps, pour Jacques Bertrand, lauréat le mois dernier du prix Alexandre Vialat, ce qui nous réjouit. D'abord parce que Vialat, c'est une référence au Papou. Ensuite, parce que les textes contenus dans le livre pour lequel Jacques a obtenu ce prix, La brève histoire des choses, ces textes, eh bien, vous les avez entendus au fil de certains dimanches dans les Papous. Et enfin, parce qu'on l'aime bien, Jacques Bertrand, on aime la finesse de son écriture, son humour léger, moqueur. Ses titres aussi, tenez, Tristesse de la balance, Le parapluie du samouraï, Je voudrais parler au directeur, J'aime pas les autres c'est rien que des sales types, Soirée dansante à l'orphelinat, J'en passe, ah oui, La petite fille qui se souvenait d'avoir parlé avec l'ange, Champagne. Brève histoire des choses de Jacques Bertrand est publiée chez Julliard et on en reparlera. Gérard Mordillat, Jacques Bertrand, Lucas Fournier, donc, pour le jeu des épistoliers. C'est vous qui lancez la correspondance, Gérard, qui écrit ?
Eh bien, c'est Roxane qui s'adresse à son cousin, Cyrano de Bergerac. Elle a beaucoup de choses à lui dire.
Oui, ils ne peuvent pas se rencontrer, non, ils n'habitent pas à proximité, je crois.
C'est délicat de se rencontrer, vu ce qu'elle lui écrit, elle préfère écrire.
Eh bien, on l'écoute.
Mon cher Cyrano, je me tourne vers vous en désespoir de cause. Votre protégé, le jeune Christian, me poursuit jour et nuit de ses assiduités, et vous seul, mon cousin, pouvez éteindre ses ardeurs. S'il ne cesse de me harceler, je serai contrainte de faire appel à De Guiche pour qu'il l'expédie au diable ou à Arras. Je n'en peux plus de votre monsieur Christian. Impossible de risquer un pas dehors sans tomber sur lui. la bouche en cœur, un bouquet à la main, prêt à me suivre où que j'aille, à l'église, chez Ragneau, chez ma modiste, et même, pardonnez-moi cette trivialité, où le roi va à pied.
Ah bon ? Oh, j'aurais jamais cru ça de lui.
Mais ce n'est pas tout.
Non ?
Le jour, Christian se montre les deux pieds dans le même sabir, bégayant et niais. Le soir, le voilà qu'il me parle en alexandrin. En alexandrin, de nos jours, comme si j'étais Chimène, Bérénice ou Andromaque. Hein? Sur deux pieds, Christian est un fâcheux. Sur 12, c'est un insoutenable raseur. Je suis certaine qu'il boit. La preuve, il voit des points roses sur les lettres de l'alphabet. Souvenez-vous de feu mon père. Sobre, il ignorait tout de la langue de Shakespeare. Mais pris de boisson, il parlait couramment anglais. Si vous avez vraiment de l'amitié pour votre maudit Christian, vous devez le mettre à l'eau, mon cousin, et l'éloigner de moi à jamais. Mon Dieu, je n'en peux plus. À peine suis-je couché, que le voilà sous ma fenêtre, à beugler si fort qu'il m'aime, que mon chat en a le poil tout hérissé.
Mais enfin, il est quand même très très beau, Christian. Elle n'est pas sensible à sa beauté.
Non.
Ah bon ?
Pour le faire taire, je suis obligé d'apparaître en chemise sur mon balcon, au risque d'attraper une fluxion de poitrine, et d'écouter les fadaises qu'il a dû recopier dans l'almanach. Si au moins il s'enhardissait à monter jusqu'à moi, et sans un mot, m'emportait sur mon lit, me troussait, me pétrissait, me faisait connaître les derniers outrages et les premiers plaisirs, je serais fâché, certes, mais... Je lui pardonnerai et je pourrais l'autoriser à quelques mirlitonnades. Encore eût-il fallu qu'il escaladasse, comme vous dites souvent. Mais non, il ne bouge pas. Il reste planté dans la rue comme un cierge devant la statue de la Sainte Vierge. Monsieur se gargarise de sa poésie à compte d'auteur, de ses serments d'ivrogne et de ses promesses de gascon. Vous savez combien j'ai non seulement horreur des alexandrins, mais des octosyllabes, des monorimes, et surtout des jeunes godelureaux. J'oserais dire que c'est le cadet de mes soucis. J'aime les hommes faits, mûrs, virils, un peu comme vous, mon cousin, avec un grand nez prometteur. Madueng m'a tout expliqué. Des moustaches en guidon de draisienne, une cuisse musclée, la main habile et souple. Pas cette chiffre de Christian qui sent encore le lait de sa mère et le pipi dans sa culotte. Alors je vous en prie, Cyrano, mon cousin, par sermon, par lettre, par la force s'il le faut, je vous conjure de faire oublier mon adresse à cette nouille de Christian et qu'il m'oublie par la même occasion. Portez-moi des nouvelles dès ce soir, je serai seul et ma porte vous est grande ouverte. Inutile d'escaladasser le balcon. Bien à vous, Roxane.
Dites-moi, Jacques Bertrand, vous seriez donc Cyrano, c'est vous qui avez reçu la lettre de Roxane.
Mais tout à fait.
Et Lucas Fournier et le Godeluron, Christian.
Je suis Christian.
Oui.
Oui. Alors, vous avez dit qu'il était extrêmement beau, donc...
Mais oui, ça vous va très très bien, mais je trouve que le casting est parfait. Simplement, cette lettre de Roxane vous ouvre des horizons formidables.
Ah oui.
Cyrano, Jacques Bertrand, parce que...
Je c'est n'en pas espérais ce qui
se passe...
pas tant.
Et oui, c'est pas ce qui se passe du tout dans la pièce. Alors, quel vent contraire a soufflé ? Qu'est-ce que vous pensez de la lettre de Roxane ?
Elle me fait plaisir.
Eh oui.
Sauf que mes alexandrins, ils sont un peu critiqués.
Ah,
Mais pour moi, la responsabilité relève de Christian.
C'est-à-dire qu'il les recopie mal. Vous les lui écrivez, il les recopie mal.
Il les dit mal.
Ah.
Donc je lui écris, et d'ailleurs en alexandrin.
Oui, il est beau, il ne peut pas tout avoir, hein, Christian.
Non, on ne peut pas tout avoir, c'est sûr.
Ouais.
Jeune godelureau, vous servez mal mes textes. Ma cousine en est là, c'est vous m'escagacez. Elle vous enverra sous le moindre prétexte, je ne sais sur quel front, vous êtes un bonnet. Déjà, vous ne savez respecter la césure, ni le ton, ni le sens, ni le nombre de pieds. S'il faut tout avouer, vous lisez comme un pied. Je n'écrirai pour vous aucune autre complainte. Rendez-moi mon échelle et puis n'en parlons plus. Et cessez, je vous prie, sinon sous la contrainte on vous exilera, d'importuner Roxane. Vous devriez quitter les cadets de Gascogne. Partez où vous voudrez, choisissez la soutane. Et vite, s'il vous plaît, je suis déjà en rogne. Vous ne souhaiteriez pas tâter de ma rapière. En exaucant vos vœux, j'ai bien manqué de nez. De cet organe, enfin, je pourrais être fier. Et vous n'êtes, monsieur, qu'un piètre cache-nez.
Oh, il est violent, hein, il n'est pas gentil, Cyrano. Mmh. Parce que finalement, dans la pièce, il est quand même très, très bon avec ce pauvre Christian.
Oui, mais il est jaloux, il cache mal sa jalousie. Ah oui, mais oui. Elle ressort.
Ah là, elle sort très, très nette, hein, en très joli vers en plus. Hein. Christian, vous recevez cet écrit de Cyrano droit au cœur, ça oui. fait mal.
Oui, ça fait mal, et puis j'en ai un petit peu assez de toute cette histoire.
Ah bon?
Ah oui, non, mais, ça suffit quand même.
Mais pas de Roxane, si.
Non, mais de tous. Donc, j'écris, moi, à mon père, enfin...
Ah bon?
À Edmond Rostand.
Ah bon, oui, je comprends.
Parce que
oui.
c'est quand même lui le responsable de tout ça.
Hein. Oui, oui.
Voilà. Donc, non.
Oui.
Assez. Ça y est, les petits comptables de l'Alexandrin, vous les avez, vos 12 pieds? Vous êtes contents, les arpenteurs de la poésie cadastrale? Vous l'avez, la césure? Il faut rendre à la césure ce qui appartient à la césure. Je vous les redis pour votre délectation. Non. Assez. Ah, vous trouvez peut-être qu'il manque la rime à non. Alors, ce n'est pas gascon, ce n'est pas balcon, c'est con, tout court. Et à assez, eh bien, c'est cassé. Oui, je suis con cassé. Vous m'aviez dit que je serais, dans votre pièce, officier et gentleman. Je me voyais déjà en Cid Campéador, en Fabrice Del Dongo, en Michel Strogoff, les femmes à mes pieds, les hommes à ma botte. Au lieu de quoi, je suis beau et con à la fois. J'écris comme un pied et tout le monde m'a dans le nez. Je suis un prénom et je n'ai pas de nom. J'embrasse Roxane, pleine bouche, et reçois pleine face les postillons de Cyrano. Je ne fais rêver ni les petits garçons ni les jeunes filles. Je suis un béné, même un béné dissipé. Alors, pourquoi tant de haine? Pourquoi avoir conçu ce fils que vous avez décidé de ne pas aimer? Pourquoi me vouloir tuer? On me dit que vous avez décidé de me faire reprendre du service en jeune officier souffreteux, décidément... Vous aimez ça? Non plus à Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, mais à Vienne, Autriche, pour vous servir d'aiglon. Je suis blond, je suis faible, je meurs piteusement, je deviendrai donc cet aiglon. Le problème, Edmond, ce n'est pas moi, mais vous. Alors allez consulter à Vienne, justement, Berg-Gasse numéro 19. Il y a un docteur qui s'occupe de l'âme. Vous lui parlerez de votre obsession des gros nez, des voyages dans la lune, des cadets, des épées. Bref, il y aura du travail. Son prénom, ce docteur, il le signe à la pointe du stylo d'un Z qui veut dire Zygmunt. Pour moi, rassurez-vous, j'ai trouvé une situation. Un auteur sensible, délicat, charmant, cherche une âme simple et candide qui découvrirait la nature humaine. Pas besoin de mots, surtout pas de vers, pas de ripaille bergeracoise, pas de blagues rustiques, juste un uniforme, des bottes, une pâleur blonde, une capeline, un petit Christian, un petit aiglon, un petit prince... C'est tout moi, ça.
Bon, il est attachant quand même, au fond. Bené, mais charmant.
Oui.
Non, vous ne trouvez pas Roxane, enfin.
Moi, je suis très très contente qu'il aille justement dans le désert. Rien ne pourrait me faire plus plaisir.
Quel beau dimanche, et les oiseaux sur la branche chantent à me faire taire. Je hais les dimanches, ils me désespèrent. Je range et m'en vais prendre l'air. Un revolver décaché, un couteau, mon foulard vert et l'envie de se foutre en l'air. Et si peu de savoir-faire. Je ne sais pas où je vais. Mais le sourire aux lèvres, je vais, et je vous l'avoue pour partir. C'est une belle journée. Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais, et je vous l'avoue pour mourir. C'est une facile de lâcher la rampe et de passer l'arme à gauche avec le cœur. cœur léger. Je suis paumé. Combien de jours et de jours mettront-ils à me trouver? Et combien seront-ils à me pleurer? Et vous, cette question, vous l'êtes-vous posée? Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais, et je vous l'avoue pour partir. C'est une belle journée. Je ne sais plus où je vais, j'ai le sourire aux lèvres, c'est vrai, mais je ne sais plus si pour mourir. C'est une belle journée. Est-ce une belle journée? Est-ce une belle journée?
Quel beau dimanche, parlez Brigitte. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, un léger strabisme divergent, le joli dimanche d'Hercule Poirot, il sera joli et non pas beau, et des mots nouveaux pour le dire, des mots de Patrick Beignet, à faire entrer dans notre vocabulaire. L.S.D. ou léger strabisme divergent, un regard en biais porté sur un certain tableau très connu. Et puisque c'est le regardeur qui fait le tableau, toutes les interprétations sont recevables, même les plus farfelues. Rêvons donc un peu avec Odile Conseil, Odile qui pose son regard bleu et myope sur un certain tableau, mais lequel ?
Sur un tableau de Picasso qui s'appelle « Deux femmes courant sur la plage ».
Oui, c'est un tableau très très célèbre.
C'est un tableau très très célèbre, oui, je pense que des tas de gens l'ont en poster dans leur chambre. Dans leur maison, au bord de la mer, peut-être.
Alors, pour ceux qui n'ont pas tout à fait ce tableau en tête, j'ai demandé à Dominique Müller de nous faire une description objective.
Très objective. Oui. Un ciel très bleu, parsemé de légers nuages blancs, occupe la moitié du fond de ce tableau, qui date de 1922, je précise. Mm-hmm. En dessous, une ligne bleue plus foncée figure la mer, et le dernier carré blanc grisé, légèrement montueux, comme le sable d'une dune, sans la moindre végétation. Il y a une petite note. Pas étonnant que Picasso ait préféré Cannes à l'Espagne, car les plages n'ont pas l'air riant. En premier plan, deux femmes se tiennent par la main en gambadant. Elles sont robustes. Leurs longs cheveux dénoués flottent, ce qui suggère pas mal de vent. Leur peau est rose, tendance rougie, et elles sont vêtues de leur tunique blanche, pas très propre, nouée à la taille, qui dénude le sein gauche de chacune, et leurs jambes aussi puissantes que des jambons. Elles courent pieds nus, le visage levé vers le ciel comme leurs mains jointes, tandis que leurs bras libres sont tendus, l'un vers l'avant, l'autre sur le côté. Une impression de tension sportive se dégage de la scène, bien que le tableau, plus large que haut, ne mesure que 41 cm de long sur 33 cm de large, ce qui réduit leur course.
Absolument, alors qu'on a l'impression, quand vous
décrivez ce
tableau...
Qu'elles vont aller au bout du monde.
Exactement, oui.
Mais c'est un tout petit monde.
Oui, oui. C'est fini ?
C'est fini.
Eh bien écoutez, c'est une description formidable, parce qu'on a tous le tableau en tête, Serge Joncourt, oui.
Ah oui, je l'ai même devant les yeux.
Ah bah oui, mais vous êtes privilégié. Alors Jacques Jouet, j'aimerais bien comme ça, bon évidemment Odile Conseil a travaillé chez elle très longuement sur ce tableau, elle a cultivé son strabisme divergent. Vous, je vous ai demandé d'improviser comme ça un point de vue.
J'ai travaillé aussi longuement qu'elle, je pense.
C'est possible. Parfois on a des surprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce tableau ?
Alors moi, je le situerais plutôt sur l'Atlantique que sur la Méditerranée.
Ah bon ? Oui, pourquoi ?
Eh bien, je trouve que la dune est quand même plus conséquente.
Donc l'Atlantique, pour
oui,
vous.
Oui, enfin, alors je pense qu'il s'agit d'une image publicitaire pour le centre de thalassothérapie de Roscoff.
Ah !
On a beaucoup reproché à la thalasso d'user et d'abuser des piscines d'eau de mer, alors que la mer elle-même... n'est après tout qu'une sorte de grande piscine, Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est ce qu'elles font. La femme qui se trouve à gauche de l'image est évidemment des deux la moins en forme physiquement. C'est elle qui bénéficie de la cure thalassothérapique remboursée par la Sécurité sociale suite à prescription de son médecin traitant. Elle souffre de problèmes respiratoires aigus, comme le montre la position de son visage, le nez dans les nuages, comme si elle cherchait désespérément l'oxygène. L'ouverture de ses bras, ainsi que le fait qu'elle a laissé tomber la bretelle gauche de son débardeur, montre de façon toute pathétique la recherche quasi désespérée de donner aux poumons sous les seins l'efficacité qu'ils ont perdue ou qu'ils n'ont jamais su acquérir depuis l'enfance.
C'est assez dramatique,
la
en fait.
Oui.
Ah oui, la peau. Mais je ne crois pas que la thalasso soit faite pour les
pour
gens
ça,
qui ont des problèmes
oui.
respiratoires.
Mais c'est une thalasso particulière, ah. Roscoff.
Oui.
La deuxième femme qui fend l'air de son manteau en galoche est la soignante. À la fois puissante et musclée, elle a le bras long. Sa foulée est impressionnante, son métier exigeant et épuisant. Le peintre l'a saisie au moment précis où, tirant la patiente par une main en pleine course, elle s'apprête à la tirer d'un coup sec pour la faire décoller, comme un javelot, et la lancer le plus loin possible dans la dune, là où sont les chardons bleus qui amortiront durement sa chute. Le traitement suppose ainsi 4 jets successifs, 3 dans les chardons, et le 4e dans la mer et ses vagues. Au bout de 8 jours, avec le homard du soir, dont la peau des deux femmes a d'ailleurs attrapé la couleur, ça devrait normalement aller nettement, mais alors nettement mieux.
C'est une cure de combien de jours? Une petite quinzaine, au moins.
Facilement.
Ah oui, oui, oui.
Si on tient le coup. Si on,
avec les chardons, c'est pas sûr.
Oui.
Hein. Ah, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation, dit le conseil?
C'est formidable, je vais tout de suite me précipiter à Roscoff moi-même. J'adorerais faire le lancer de curiste.
Ah, c'est pour lancer, c'est
pas
pour être lancé.
C'est pas pour être lancé, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tableau? Qu'est-ce qu'il vous raconte comme histoire?
En effet, il s'agit d'une course, comme son titre l'indique, je vous le confirme. On voit bien ces deux femmes qui sont dans l'effort, tendues vers un but ou une ligne d'arrivée dont on pressent qu'elle est relativement proche, mais sans en avoir l'absolue certitude. Alors, deux femmes, mais pas n'importe lesquelles, et une course, mais pas n'importe quelle course, puisqu'il s'agit de Marguerite Duras et Simone de Beauvoir, lancées dans une célèbre épreuve sur laquelle de nombreuses représentantes du deuxième sexe se sont cassées les dents, puisqu'il s'agit de la course à l'Académie. Celle qui emportera le titre sera la première à endosser l'habit vert, à gagner le droit de siéger, seule et unique femme parmi des esprits forts et même parfois fort avancés, une femme qui, dans cette assemblée, sera bel et bien la première venue. Alors le contexte d'abord. Nous sommes en mai 1968, Simone et Marguerite courent main dans la main. Comment est-il possible de dater la scène avec tant de précision? Facile. D'abord, les deux femmes ne portent pas de soutien-gorge. Le sein dénudé de l'une et de l'autre l'atteste. Et pourquoi ne portent-elles pas de soutien-gorge? Parce qu'elles viennent de jeter au feu cet instrument de contention qui bride la femme et sa poitrine, les empêchant l'une et l'autre de se libérer. Donc, ça c'est fait. Au cri de « Au feu, les soutifs, libérez les nénés, libérez les nanas ». Un autre élément nous permet d'avancer avec certitude cette date de 1968, c'est le titre même du tableau, deux femmes courant sur la plage. Sur la plage, pourquoi sur la plage? Parce qu'hier encore, ou peut-être bien avant-hier, il y avait là des pavés qui ont été arrachés, et sous les pavés, eh bien oui, sous les pavés, la plage. Enfin, troisième élément qui nous dit l'époque, c'est ce bleu qui couvre les deux tiers au moins du tableau, ce bleu de la mer et du ciel mêlé, cette vague bleue qui submerge pratiquement le tableau, ce bleu annonciateur de la couleur de la chambre qui sortira des élections législatives de juin 1968. À l'intention de jeunes auditeurs, je rappelle que les partis de droite ont emporté lors de ces élections plus de 80% des sièges. Donc, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras courent. Mais elles courent ensemble, main dans la main, fraternellement, ou plutôt sororalement. Elles veulent arriver ensemble, ex aequo exactement. Aucune d'entre elles ne gagnera sur l'autre d'une courte poitrine. Elles inaugurent en fait une nouvelle ère où l'égalité l'emportera sur la hiérarchie, où la coopération succédera à la compétition, où avec supplantera contre. Ensemble, c'est tout. À cet instant précis de la course, Duras est fatiguée. Elle lève la tête vers le ciel et commence à soliloquer. Courir, dit-elle, courir, forcément courir, elle doit courir. Courir, c'est ce qui compte, là, maintenant. Courir, mais pas courir comme courent les autres. Comme si courir n'avait qu'un sens, qu'un but, non. Courir dans un sens, puis dans l'autre peut-être, ou pas. Mais pourquoi courir d'ailleurs? Oui, Pourquoi courir, Marguerite? Pourquoi courir si fort, entraînée par une Simone de Beauvoir, qui avait publié quelques mois plus tôt La femme rompue, mais qui allait tous les jours à la salle de gymnastique, sa cuisse dynamique et son mollet ferme le disent assez. Simone de Beauvoir qui cherche du regard Jean-Paul Sartre, qui a promis d'être là avec une banderole d'encouragement, quelques mots, quelques lettres qu'elle guette, mais elle ne voit que le néant. Simone de Beauvoir qui s'apprête à l'instant où je vous parle à toucher la ligne d'arrivée, elle tend la main, elle approche, elle va, elles vont gagner la course. Plus que quelques mètres, allez Simone, mais, c'est fou, la ligne d'arrivée se recule au fur et à mesure qu'elles s'en approchent, elles doivent courir, courir encore alors que j'aperçois une concurrente surgir du diable Vauvert entrer dans la course. Ah mes amis, quel retournement de situation!
Et voilà.
Et oui, vous qui connaissez la fin de l'histoire, mais là nous sommes hors champ, vous savez que la course durera longtemps encore et que c'est une autre Marguerite qui l'emportera, seule. Et coaché, qu'il me pardonne l'expression, par un fringant entraîneur qui a nom d'Ormesson. Mais de ce tableau-là, je vous parlerai une prochaine fois.
C'est envisageable, non, Hervé Le Tellier?
Ah mais tout à fait. En fait, on reconnaît bien Duras, là, forcément Duras.
Mais ça n'explique pas pourquoi elle semble être portée par Beauvoir, quand même. Parce qu'au fond, s'il y a une rivalité entre les deux pour arriver la première, Beauvoir ne devrait pas l'aider.
Elles sont ensemble, elles veulent arriver ensemble. Ah, oui. C'est une ère de fraternité,
donc
de sororité.
Donc on parle du principe que Beauvoir est plus costaud, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Bon,
C'était le cas d'ailleurs,
oui. Qu'est-ce qu'il en pense, Serge?
Oui, c'est charmant.
Charmant. Ma che se la lumière tango, il est musicien you tango. Io sui du pays del tango, io lo voudrais danser. Si, 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 io distingo una chiquita, mon beau regard roi l'invita. Ma qu'avec une grâce esquisse, elle me dit, yo les promis, aïe, 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 aïe. Et pour pas manquer la danse, yo m'incline vers sa sœur, belle comme une contrebasse, avec un chapeau à fleurs. Yalala de mi amor, yalala tu corazón, yalala de tu amor, yalala mi corazón. Après le tango, elle vient tout une bamba, et yo ne peux plus décoller de ses bras, avec tout le poids de son corps bien garni, elle saute à pieds joints sur mes souliers vernis, et yo n'ai jamais fini. De danser dessous sa loi, bientôt mes souliers vernis ne le sont pas plus que moi. Y'en ai jamais su de sens, moi qui suis un Alzantin, depuis que je suis en France. Bel amour, yo fait tintin. Si es que yo lo digo, lo repetará usted, pero si no lo digo, no se le repetará. Y si no lo digo, yo ninguno podrá oír, si no lo puedo oír, no se le repetará. Oui, da, oui, da, da, da.
Bobby Lapointe. Salut, dimanche des papous dans la tête. Salut, dimanche radio sur France Culture. Et comme les autres papous amoureux du dimanche, Eva Elmassi salue ce jour avec un joli dimanche en pastiche. Eva?
C'est le joli dimanche d'Hercule Poirot. Un dimanche comme presque tous ses autres dimanches, alors que sa fidèle secrétaire Miss Lemon était de congé dominical et que le capitaine Hastings hantait les champs de course, faisant des paris hippiques stupides et qu'aucun client ne se pressait pour solliciter le concours des petites cellules grises du fameux détective belge, celui-ci essuya ses moustaches avec plus ou moins de satisfaction. Une miette de brioche sucrée retomba dans les reliefs d'écume de feu son chocolat chaud et de sa crème fouettée. Ce dimanche, comme presque tous les autres dimanches, Poirot avait un mauvais pressentiment. Un crime se préparait, c'était certain. Peut-être même un meurtre, qui sait, mais lui, il le savait, même un assassinat collectif, un crime odieux. Il regarda par la fenêtre les passants endimanchés. Que les gens portent costumes et masques dans la société, ça ne l'étonnait guère. Enfin connaisseur des secrets inavouables de l'âme humaine. Mais de là à commettre ces forfaits abjects, comment les en empêcher? Pour une fois, enquêter en amont, ne se fiant que sur sa légendaire intelligence. Le crime parfait n'existe pas. Il rassembla les faits connus, les recoupa, les réarrangea dans sa tête ronde et chauve, si bien faite en vérité. Ces criminels en puissance vont tous vers un but commun et néanmoins propre à chacun. Ils se dirigent, leurs femmes à leurs bras, chez leur mère ou leur belle-mère. Certes, si l'occasion fait le larron, des belles occasions s'offrent pour empoisonner le potage à l'arsenic ou dévoyer l'usage du couteau de sa pacifique mission de découper le gigot et répandre du sang humain. Pourtant, et c'est curieux, se fit la réflexion le grand Hercule Poirot, tout le monde ne tue pas sa belle-mère et encore moins 52 fois l'an. Son funeste pressentiment ne le quitta pas. Pas de courrier le dimanche, ni ses journaux habituels pour tromper avec ses expédients le profond désœuvrement de son esprit. Il revint sans cesse à son intuition pénible. On va commettre l'irréparable si je ne fais rien. Or, je ne fais rien. Et pourquoi donc ne fais-je rien? Parce que bon sang, Poirot n'a rien à faire le dimanche. Le petit Belge commença à regretter d'avoir décliné l'invitation à déjeuner de l'inspecteur Japp, le pire cuisinier qui existât à Londres, certes, mais en la bonne compagnie duquel ils auraient pu bavarder au-dessus du pudding des anciennes affaires qui ont fait la réputation de Poirot, le meilleur détective du monde. Les heures tournèrent, les horloges sonnèrent, perturbant à peine la monotonie de l'après-midi, mais ne calmant absolument pas les nerfs d'Hercule Poirot. C'est trop tard, avoua-t-il son impuissance. Poirot a échoué. Au même moment, il eut un éclair éblouissant, le puzzle se recomposa. Place au déballage final. Une nouvelle fois, il résolut une affaire des plus difficiles. « Mesdames, messieurs, oui, vous aussi, mademoiselle, vous tous, mais regardez donc en face ce que vous faites. Que vous soyez allés au cinéma, au restaurant, au théâtre ce dimanche, pas d'alibi qui se tienne, car je vous le demande, quel crime commet-on ce jour-là en particulier, n'est-ce pas ? Ce crime qui devrait être si abominable à nos yeux de mortels si nous tenions vraiment à la vie. Alors, quel est ce meurtre collectif, je vous le demande? Oui, mesdames, oui, messieurs, le dimanche, on tue le temps. Je vais devoir appeler Scotland Yard.
Oh, mais comme il est fine, dit le conseil, il a pu deviner.
Il y a de l'Hercule Poirot en moi, vous savez. Oui.
Sur France Culture. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, des mots nouveaux pour le dire, des mots à faire entrer dans le vocabulaire de notre langue pour l'enrichir, des mots pour remplacer des phrases et dire en raccourci, par exemple, le verbe fourmailler, ça c'est une trouvaille de Serge Joncourt pour dire passer un week-end à Limoges sans jamais prononcer le mot porcelaine. Aujourd'hui, c'est Patrick Beignet qui s'est amusé à inventer des mots, 6 mots précisément, et on les découvre. Alors, Odile Conseil, Jacques Vallée, vous devrez décoder ce que Patrick a imaginé. Vous êtes prêts?
Nous sommes tout ouïes.
Alors, il y a des verbes, il y a un peu de tout, je suppose, Patrick.
Des verbes et des substantifs.
Oui, très bien, c'est un très bon choix, ça.
Oui, oui.
Parce que ça manque.
Où vas-tu chercher ça?
Et ça commence par un verbe du premier groupe, le verbe remberquiller.
Remberquiller.
R-A-M ?
R-E-M.
Attention, l'orthographe, Jacques. Oh là là !
Mais ça aurait pu être R-A-M.
Oui, mais ça n'est pas R-A-M, c'est R-E-M.
Ah bon ?
Et ce détail a son importance, Jacques Vallée ?
Oui, beaucoup.
Bah, bien sûr, on s'en passe à la même façon. Oui.
Parce que on ne peut pas se passer de E, tandis que de A.
Très bien.
Alors, c'est Rambert
qui est Q-I-2-L-E-R.
De toute façon, quand on est traducteur, on traduit, puis voilà.
Ben oui.
C'est un travail, c'est même une mission. Puis traduire Patrick Beignet, c'est très passionnant, toujours.
Ensuite, un substantif, la détourbe.
La détourbe. Ouais. C'est pas mal ça comme mot, Sergent Coche. Je sais que vous ne jouez pas avec ces mots, mais
oui, ça, y a
vous les écoutez, vous les savourez.
Oui, on est déjà dans la tourbe, dans la en Irlande, en Pays de Galles.
Ah oui, non, je pense que c'est un piège.
Là, plutôt qu'une. Ou ça peut être une
détourbe. Non, ça peut être une détourbe,
oui.
Quelle sensibilité grammaticale, dit-il.
Ah ben, le défini, l'indéfini, ça a son importance quand même. Hein.
Après, il y a un autre substantif, la topipédie. T-O-P-I-P-E-D-I-E.
Topipédie, c'est très joli.
Oui.
J'en prendrais bien deux ou trois.
Ensuite, toujours un substantif.
Oui.
L'empourdement.
L'empourdement, L apostrophe.
Exactement.
E-M. L'empourdement.
Ah, E-M également.
Ah, oui. J'aurais préféré avec un A, pas de sens.
Mais c'est un A.
Non, là, c'est un E.
Encore. Je ne connais que ça. Les A, moi, vous savez.
Ah, mais ça me déçoit.
C'est un bon mot. On sent une certaine difficulté avec ce mot. Je ne sais pas si je me trompe tout à fait.
Vous lisez la définition.
Non.
Il y a un poids dans ce mot.
Répondre. Oui, il y a un poids. Oui, c'est vrai.
Il y a du poids dans tous les mots quand on est sensible, vous savez.
c'est à noter.
Oui. En lettres d'or, oui.
En lettres d'or.
Par exemple, dans le terme suivant, qui est toujours un substantif, les substantifs l'emportent dans ma liste, la cicantrelle.
Oh, la cicantrelle.
Ça pèse moins, me direz-vous.
Cicantrelle,
c'est un A ou un
c'est un A. C'est...
Mais qu'est-ce qu'il est puriste, Jacques Vallée, il veut tout savoir. Cicantrelle, c'est quand même plus léger.
Oui,
c'est beau ça.
Et pourtant, vous verrez. Mm-hmm. Oh là là. Et enfin, tout ça se termine par le verbe cartancher.
Avec un A. Si c'est un A.
Profitez-en, c'est un A.
Deux A même.
Deux A.
Cartancher. Alors, vous avez imaginé vos mots, ils vous plaisent bien, je suppose. Vous leur avez donné.
À tout le monde.
Ah, mais oui. Moi, je préfère la cicantrelle entre tous. Mais bon, c'est un choix personnel. Vous leur avez donné donc une signification, puisqu'il fallait inventer des mots nouveaux comme une sorte de raccourci du langage, évidemment.
Vous qui l'aviez demandé.
Oui. Mais je suis très consciente de l'effort que je vous ai demandé de faire. Et ensuite, vous avez imaginé une histoire avec ces mots.
Oui.
On l'écoute.
J'avais décidé que le moment était venu de remberquiller. Après mûre réflexion, mon choix tomba sur la détourbe. Sur les lieux, la topipédie battait son plein. Le drame arriva par ma faute lorsque je commis un empourdement caractérisé. Là, je crus ma dernière heure arriver, dans un vrai cas de cicantrelle. Et pas moyen de cartancher. L'horreur.
Ah oui, ça se passe pas si bien hein, quand même. Serge Joncourt, vous êtes auditeur, spectateur de cette scène entre trois personnages, Patrick Beignet et ses traducteurs, Odile Conseil, Jacques Vallée. Vous êtes indépendant, hein, mais vous écoutez, ça vous inspire quoi, ces mots, cette histoire, ça semble
très puissant. J'ai un petit regret pour la cicantrelle, parce que je la voyais déjà, vous voyez, passer au brasero avec une pointe de safran. Mais bon, visiblement, bon, il semble que ce ne soit pas comestible.
Non. Conseil Jacques Vallée, vous avez donc œuvré sur la traduction des mots de Patrick Beignet.
C'est le mot, œuvré.
C'est vrai ? Ah oui ?
C'était déjà une œuvre au départ, mais il a fallu rajouter pas mal de choses.
Ah bon ? Vous voulez dire qu'on était dans l'embryon et qu'il fallait construire ?
Voilà.
Bon, on va voir Jacques Vallée. En tout cas, vous aviez des bien jolis mots. Comme le verbe remberquiller. Remberquiller, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Odile Conseil ?
Ça veut dire commencer à pratiquer une activité physique de plein air une fois qu'on est à la retraite.
Ah oui, mieux vaut tard que jamais. Hein.
On a le temps, au moins.
Exactement. Vous remberquillez, Jacques Vallée ?
Non, moi, c'est un terme de métier. C'est choisir un endroit où déployer une grande échelle.
Oh, c'est technique, hein, mais on a le droit, évidemment. Puis ça peut être en plein air, comme pour l'activité de Neil Conseil. Oui. Et pour vous, Patrick Beignet, qui avait inventé ce mot, qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, je suis exactement aux antipodes de la définition proposée par Odile.
Mais c'est proche de mon échelle ?
Pas vraiment non plus. Non. Remberquiller, c'est se soucier des grands événements de l'actualité culturelle en se soumettant aux injonctions de Télérama.
Oh,
quelle horreur.
Ah là là, remberquiller. Oui, il y avait le côté douloureux, hein, dans remberquiller. Un point de vue sur remberquiller, Serge, qui n'avait pas joué, non.
Et on peut dire que, dès le départ, nos traducteurs sont sur des pistes très éloignées de la...
On peut le dire, Serge.
Enfin bon, je ne veux pas présumer.
Sagement compris. On peut le dire. Et on va voir si ça se confirme avec la détourbe, Jacques Vallée.
Je suis toujours dans la technique. C'est, vous savez, au dernier étage, il y a des rebords de fenêtres, de chambres de bonne, tout ça. Bon. Alors, donc, c'est au dernier étage, le rebord de la fenêtre d'une chambre où se sont réfugiés des gens.
Ah, alors là, il fallait un mot.
Ben oui.
Parce qu'il fuit quelque chose qui
il
arrive
fuit,
dans le couloir.
Vous allez voir, ça arrive à grands pas.
Ah oui, il a des tours.
Un grand barreau.
Vous voyez, rien à voir avec la tourbe irlandaise, Serge Joncourt, que vous aviez mentionné tout à l'heure, non ? La détourbe, Odile Conseil.
C'est la pratique du monocycle sur des chemins forestiers, de préférence bourbeux.
Ben oui, c'est cohérent avec votre
très
histoire.
Très sportif, en tout cas.
Oui, c'est ça, de sport, absolument. Et on n'est sûrement pas dans le sport avec Patrick Benigni, avec le vélo. On est où ?
Eh bien, il s'agit de peinture. Mais je précise pour Jacques Vallée que ce n'est pas la peinture pompier. Hein.
Vous m'avez vu venir.
C'est une exposition de peinture qui attire les foules, le genre chef-d'œuvre impressionniste dans la collection monégasque.
Ah
vous
oui.
C'est ce que je veux dire.
Oui, oui, oui. Évidemment, et dans votre bouche, ça n'a pas un côté très favorable. Quoi. On n'a pas.
Bon, pourquoi
si,
ça
ah bon
oh, j'aime beaucoup les collections monégasques.
Ah bon, alors tout va bien.
Un grand détourbeur.
Et on va passer à la topipédie avec Jacques Vallée.
Justement, vous vouliez une catastrophe. Ben là, voilà la topipédie. C'est quand brusquement l'incendie se propage, les flammes commencent à s'échapper des fenêtres des étages inférieurs et embraser tout le bâtiment.
Et les gens qui sont sur le rebord vont sauter dans la toile des pompiers.
Non, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore. La topipédie, Odile Conseil.
C'est l'engouement dominical qui pousse les masses laborieuses à tenter de se maintenir en forme en pratiquant le footing.
Oui.
Je suis dans le sport, j'y reste.
Oui, certains, c'est le vélo, remarquez, j'en connais, qui vont faire du vélo tous les week-ends. Alors... Pour Patrick Beignet, on est dans le culturel et je suppose qu'on y reste avec la topipédie.
Eh ben non, c'est du vélo, ce que
je dis. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. La topipédie, c'est la queue qu'on doit faire pour accéder à la caisse d'une exposition après 2 ou 3 heures d'attente.
Oui, parce qu'on n'a pas de coupe-fil.
Mais c'est un sport comme un autre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, nous avions un empourdement.
Non, lourdement.
Pourdement.
Aïe, 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 aïe.
Oui, ah là là, Jacques Vallée, ça change tout.
Non, 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 mais effectivement, c'est un empourdement.
Ah bon, réflexion.
Merci beaucoup.
Oui, je
disais. Non, parce qu'autrement, je suppose que votre traduction serait différente.
Mais j'arrivais pas à me relire.
Ou qu'il n'y aurait peut-être pas besoin de traduire. Mais...
Non, j'arrivais pas à me relire.
Alors, un empourdement, c'est un très joli mot, imaginez.
Ah oui, ben oui, c'est
Patrick Beignet.
C'est une faute d'attention qui fait que votre pied rate un barreau de l'échelle et que l'on redescend de plusieurs barreaux d'un coup, voire d'étages.
Ah oui.
Ah oui, c'est oui. On fait pas attention, on grimpe sur une échelle.
C'est un faux pas, quoi.
Ben oui, c'est
sur une échelle. C'est un faux pas sur une échelle.
Sur une échelle.
C'est trébucher sur une échelle. Oui, c'est...
Oui, oui. Ah, faut ça... le faire. Hein.
Oui, ça, ça peut faire mal, hein, non
oui. Oui. Oui, mais ça arrive. Hein.
Ben, oui, ça, pas trop aux pompiers, je pense, quand même. Ils sont un peu...
Ben,
oui.
C'est, si les chaussures glissent, s'il y a...
D'accord.
C'est la catastrophe, Serge Joncourt. L'empourdement chez Odile, gageons qu'on est ou dans le footing ou dans le vélo.
Oui, mais on est encore dans quelque chose d'un peu terrible, en fait, comme Jacques Vallée, parce que c'est un freinage brutal, à monocycle ou à bicyclette, dans une mare de boue qui arrose copieusement le voisinage.
Ah, voilà, on est toujours victime. Oui. Il y a des victimes collatérales.
Mais soi-même, on n'a rien.
Non, on a au pire le pied dans la boue.
Oui, bon, ça va.
Ce qui est désagréable quand même, assez, oui. L'empourdement, selon Patrick Beignet.
Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit Jacques Vallée.
Ah bon ?
C'est une faute d'attention. Quand, après plusieurs heures d'attente, dans la queue, on entre par erreur dans l'exposition qu'on ne voulait pas voir. Par exemple, dans les chefs-d'œuvre de l'art contemporain des collections de François Pinault, au lieu des chefs-d'œuvre impressionnistes des collections monégasques.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Mais je pensais bien qu'il y avait un manque d'attention dans cette histoire.
Empourdement, oui. C'est le côté aimant. Après, à ce si joli mot, enfin, que moi je trouvais joli, la cicantrelle.
Ah oui, ben, la cicantrelle. C'est une culpabilité dévastatrice qui fait qu'un voile noir vous aveugle et que vous chutiez irrémédiablement.
Ah oui, donc c'est pas du tout agréable, quoi.
Ben, on n'a pas le temps de savoir si c'est agréable ou pas.
Enfin, ça dépend. Si on tombe dans de l'eau, on a une chance quand même.
Oui.
La cicantrelle de Nil Conseil, elle ressemble à quoi ?
Alors, je confirme que c'est un mot dont la définition ne correspond pas au caractère joyeux et agréable de la sonorité, puisque c'est une guéguerre de territoire qui oppose les piétons aux cyclistes sur les trottoirs urbains ou dans les allées forestières.
Ben ça, il fallait un mot. Parce que moi, je trouve que c'est très désagréable, les cyclistes qui roulent sur les trottoirs.
Quoi. Vous voyez ?
Oui, ah non, mais c'est vrai. Mais je sais que vous êtes cycliste, Serge Joncourt. Oui. Vous roulez sur les trottoirs ?
Enfin, les piétons n'ont rien à faire sur les trottoirs. Ben oui.
Il faut qu'on aille où ? Sur la chaussée ?
Qu'ils restent chez eux. Ouais.
Mais dans le texte de Patrick Bénier, il y avait quelque chose de pas si joyeux dans la cicantrelle, non ? Je me trompe ?
Écoutez, je vais vous laisser en décider. Je suis incapable de... Non, je trouve que c'est plutôt une affirmation de soi assez joyeuse. C'est le constat qu'on fait que, même si on n'est pas du tout réactionnaire, l'art contemporain est une vaste escroquerie.
Ouais, bon, c'est un peu ce que je dis quand même. C'est... Non ?
Bah, c'est joyeux.
C'est joyeux ?
Ah oui.
Bon.
Alors, ça dépend de quel côté on se place. Alors, moi, je me place du côté de la joie. Ah, oui. Vous êtes de quel côté, Jacques ?
Mais moi, je pense aux escrocs et les gens qui ne sont pas escrocs, les sincères.
Oui. C'est exactement je rêve comme encore. Les piétons sur la chaussée.
Je rêve encore, monsieur.
Il est mignon, Jacques.
C'est étrange. Hein.
Et on termine avec le verbe « cartancher ». Cartancher, Jacques Vallée.
Ah ben c'est se rattraper à quelque chose, se raccrocher à quelque chose. Un barreau ou à ce que vous avez sous la main.
Faut une idée, oui.
Ah ouais, n'importe quoi, du moment qu'on se raccroche.
On se raccroche. On se cartanche à n'importe quoi.
Vous-même en ce moment, même d'ailleurs. Vous...
Oui, voilà.
Cartancher à votre idée,
à votre idée.
Et ce cartoncher pour Odile Conseil ?
C'est sauter sur sa selle et partir comme un dératé sans demander son reste.
Parce qu'on a éclaboussé tout le monde, alors...
Par exemple, oui, c'est une possibilité.
Courage fuyant, c'est ça. Et pour Patrick Bénier ?
Il y a des moments où Odile met le doigt en plein dans le mille, comme ce qu'on dit. Odile n'était pas loin du tout du sens. Cartoncher, c'est pouvoir revenir sur ses pas et sortir immédiatement d'une exposition répugnante d'art contemporain. Oui, courage Fillon, c'est exactement ça.
Exactement ça. Ah oui. Là, vous avez été transparent pour Odile.
Oui, oui.
Et pour elle seule. C'est un privilège, Odile.
Je suis très honorée.
On écoute vos textes, sans les interrompre, vos traductions et puis le texte original.
Oui.
Jacques Vallée.
J'ai mis un titre, il fallait en mettre un.
Oh, mais c'est une très bonne idée.
Je me voyais déjà en haut de l'échelle.
Et vous allez chanter ?
Non. J'ai décidé que le moment était venu de choisir l'endroit où déployer la grande échelle. Après mûre réflexion, mon choix tomba sur le rebord de la fenêtre d'une chambre du dernier étage où des gens s'étaient réfugiés. Sur les lieux, les flammes commençaient à s'échapper des fenêtres des étages inférieurs et embraser le bâtiment. L'incendie battait son plein. Le drame arriva par ma faute, lorsque je commis une faute d'attention caractérisée qui fit que mon pied rata un barreau de l'échelle et que je redescendis de plusieurs étages. Là, je crus ma dernière heure arrivée, dans un vrai cas de culpabilité dévastatrice, qui fit qu'un voile noir m'aveugla et que la chute fut irrémédiable. Et pas moyen de me raccrocher à un barreau de l'échelle, l'horreur.
Ouais, c'est un point de vue très très égoïste, parce qu'il pense qu'à lui et à sa chute, et les braves gens qui sont là-haut en train de l'attendre, bouf !
Ah oui, mais c'est
plus question de...
Il faut demander ça à l'auteur de ce texte, qui sous-entend ça.
Oui, mais lui, il ne parlait pas de pompier, Patrick Bénier.
Il y a quand même une chute irrémédiable dans son texte. Il y a une fuite ou il y a quelque chose.
Vous voyez qu'il y a des pompiers maladroits, Serge Joncourt ?
Bah oui, je découvre, oui.
Je n'ai jamais dit que c'était un pompier, c'était peut-être quelqu'un qui allait pour sauver des personnes.
Oui.
Je n'ai pas jamais parlé de pompiers, je ne vois pas pourquoi c'est Patrice qui a parlé de pompiers.
Non, mais c'est parce que quand on parle de grande échelle, on imagine toujours le pompier qui va avec.
Oui, c'est peut-être quelqu'un qui a une grande échelle qui la met pour sauver des gens.
Pour ça va avec sa grande échelle.
On a tous une grande échelle.
Sur le dos, comme ça, c'est très pratique pour marcher. Bon, Odile Conseil, le sport.
J'avais décidé, étant à la retraite, que le moment était venu de commencer à pratiquer une activité physique de plein air. Après mûre réflexion, mon choix tomba sur la pratique du monocycle sur des chemins forestiers, de préférence bourbeux. Sur les lieux, l'engouement dominical des masses laborieuses à tenter de se maintenir en forme en pratiquant le footing battait son plein. Le drame arriva par ma faute lorsque je commis un freinage brutal dans une mare de boue qui arrosa copieusement les coureurs. Là, je crus ma dernière heure arrivée, dans un vrai cas de cette guéguerre de territoire qui oppose les piétons aux cyclistes sur les trottoirs urbains ou dans les allées forestières. Et pas moyen de sauter sur ma selle et de partir comme un dératé sans demander mon reste. L'horreur.
C'est vrai qu'il y avait l'horreur et la faute dans le texte de Patrick Beignet. Alors forcément, il y a un drame et une insatisfaction. Bah oui. C'est normal.
Bah
hein.
Oui, donc c'est pour ça qu'il n'a pas sauvé les gens, mon malheureux sauveteur. Qu'est-ce
oui,
qu'il
c'est
fasse.
Vrai. C'est... Il ne pouvait pas faire grand-chose.
Non. C'est l'horreur, c'est le drame.
Patrick, vous avez l'impression d'avoir été bien traduit ?
Parfaitement.
Oui. Alors on écoute votre texte en version originale.
Oui, et le titre de la version originale, c'est La fin de tout.
Ben oui.
Très beau titre.
Ouais.
J'avais décidé que le moment était venu de m'occuper des grands événements de l'actualité culturelle et de me soumettre aux injonctions de Télérama. Après mûre réflexion, mon choix tomba sur l'exposition Chef-d'œuvre de l'impressionnisme dans la collection Monégasque. Sur les lieux, naturellement, la queue laissait prévoir plusieurs heures d'attente. Le drame arriva lorsqu'une fois muni de mon billet, j'entrais à l'exposition Chef-d'œuvre de l'art contemporain de la collection François Pinault au lieu des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Là, je crus ma dernière heure arrivée tant c'était horrible et, bien que je ne sois pas du tout réactionnaire, je constatais que l'art contemporain est décidément une vaste escroquerie. Et pas moyen de revenir sur mes pas. On était forcé pour sortir de l'exposition de traverser les 18 salles abjectes remplies de prétendus arts contemporains. L'horreur.
Je ne sais pas quel est de vous trois celui qui a l'inspiration la plus douloureuse, la plus grave. Qu'est-ce que vous pensez, Serge Janco ? Quel est le texte le plus dramatique ?
Les trois, mais c'est ce qui fait leur force.
Moi, je dirais que celui de Gilles est quand même plus léger, parce qu'après tout, il y a de la boue, il n'y a pas mort d'homme.
Oui, mais enfin, elle soulève un vrai problème de société, un clivage.
C'est vrai, tout le monde se divise en deux. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an pour vos collections de papous. À réécouter quand le désir est là et pour le plaisir. Vous pouvez aussi écouter directement sur votre ordinateur, tablette et autres pendant 1000 jours. Et puis, baladez-vous sur nos pages vides du club et les livres des papous. Déposez vos commentaires, questions, suggestions. Et découvrez les nouveaux livres, spectacles, expos des membres de notre petite bande. Au revoir. Dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Perrault pour Tire ta langue sur France Culture. Passez un très bel après-midi à l'écoute. Tiens,